ne visent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, et en ont cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un cœur doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuivre, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. À plusieurs dimanches qu'on étudie cette épître de Pierre qui est intéressant. On remet un peu ça dans le contexte. Vous vous souvenez que l'Église est persécutée dans la diaspora, un peu éparpillée partout. Et on avait vu que Dieu offrait des armes spirituelles, d'abord, hein, dans les premiers chapitres. Quand on est dans la persécution, on a la possibilité d'avoir des armes spirituelles. Et en même temps, il demande à ces chrétiens qui sont persécutés d'avoir une bonne conduite et un bon témoignage. Et c'est vrai que quand tout devient injuste autour de nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire généralement? C'est plutôt de se venger, de répondre à toutes ces choses-là. Mais Pierre et le Seigneur derrière demandent à ces chrétiens d'avoir une bonne conduite et un bon témoignage malgré les hostilités, malgré les épreuves qui sont là devant eux et devant nous. Et maintenant, on dirait qu'il se focalise au fur et à mesure. Hein. Il va maintenant dans le foyer, tout simplement, et il va parler de la conduite de l'homme et de la femme, et ensuite des frères et des sœurs en général. Et là aussi, il va demander un comportement exemplaire dans tous les domaines, en fait, de notre vie. Il veut tout simplement qu'on soit des exemples dans ce monde, des lumières, comme la Bible dit, mais des exemples partout. On avait vu la dernière fois, même chez notre patron, même si mon patron il est pénible, même s'il est grincheux, ils sont souvent grincheux, mais Dieu veut que le chrétien soit un exemple. Et eux étaient dans la persécution, faut pas l'oublier. Dieu demande ça à des gens qui ont déjà des sacrées difficultés. Donc, pour nous, ça devrait être un peu plus simple, je pense. Enfin bon. On va voir trois choses ce matin. Hein. C'est comment les femmes, d'abord, mariées, doivent se comporter. Puis, évidemment, les maris, ils ont aussi un rôle là-dedans. Et voir un peu le comportement de tous les chrétiens. Alors, la bonne conduite des femmes mariées. Ça peut être même pour les femmes non mariées, mais là, c'est lié à leur mari. Donc, elles ont un comportement à l'égard de leur mari. Et avant même de vouloir parler de cette fameuse soumission, hein, parce que dès qu'on parle de soumission de la femme, généralement, les gens. Il faut bien se souvenir que dans les chapitres précédents, il est demandé d'abord aux chrétiens de se soumettre aux autorités. Hein. C'est au chapitre 2, verset 13. Il y a la soumission de tous les chrétiens aux autorités. Il y a aussi la soumission du serviteur, chapitre 2, verset 18, à son patron. Hein. C'est la même soumission. Et puis on voit surtout l'exemple de soumission par excellence, c'est Jésus-Christ, qui lui s'est soumis au Père parfaitement. Et donc, avant de vouloir bondir là sur cette soumission de la femme, il faut bien se souvenir que cette soumission, elle est demandée à tout le monde finalement, et de la même manière. Mais Pierre va s'intéresser à cette soumission. Alors, le mot en grec, c'est hypotasso. Ça veut dire soumettre, ça veut dire beaucoup de choses, mais en fait, c'était un terme militaire grec hein, qui disait en fait, c'est placer des divisions de troupes d'une manière militaire sous le commandement d'un chef. Dans un sens non militaire, on pourrait dire, il a une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités, de porter une charge. Il y a deux choses importantes là-dedans, c'est responsabilité et aspect volontaire. Je veux le faire. On ne m'impose pas cela. Un militaire, généralement, des fois on leur impose, mais il est là et il veut obéir normalement. Et c'est ça, en fait, le sens de ce mot, hein. Cette soumission, elle est demandée à tout le monde, de la même manière. Hein. dans le même sens du terme. Mais là, Pierre s'intéresse à la femme et il rappelle qu'elles doivent être soumises à leur mari. Quand on s'intéresse un peu à la condition de la femme dans le contexte de l'Église primitive, j'ai trouvé un petit article, et c'est intéressant, hein, de voir comment était la femme à ce moment-là. Parce qu'on dit souvent que Paul, c'est quelqu'un qui était vraiment dur vis-à-vis des femmes. En fait, c'est quelqu'un qui était très ouvert, finalement. Mais bon, je lis. Une évaluation correcte exigerait une bonne connaissance de la situation concrète de la femme à cette époque, en cette région. Malheureusement, la réalité apparaît plus complexe et fluctuante qu'on le dit souvent. Elle varie, entre autres, en fonction des groupes sociaux. Si la domination du mari n'est nulle part remise en question dans son principe, on assiste dans le monde païen de la période helléniste, hein, les Grecs, à un accroissement de la liberté pratique pour les femmes, surtout dans les classes sociales privilégiées, de même qu'à un relâchement des mœurs. C'est pas positif, en fait. À Rome essentiellement, mais sans doute aussi dans des grandes cités de l'Empire, certaines femmes pouvaient jouir d'une indépendance totale, dépassant de loin ce qui était prévu par le droit, lui-même en voie de libéralisation. Les choses évoluaient déjà à ce moment-là. En Palestine également, la situation différait selon les classes et les lieux. Les femmes à la campagne, en raison des nécessités économiques, bénéficiant de larges possibilités d'action et de mouvement. Dans la population modeste des cités d'Asie mineure, où se recrutaient, selon toute vraisemblance, la majorité des chrétiens destinataires de l'épître, hein, donc ceux à qui on parle, les femmes devaient rester dans une stricte dépendance de leur mari dans tous les domaines de la vie. En fait, ça dépendait où vous étiez, dans quelle région vous étiez, mais dans certaines régions, comme Rome ou chez les Grecs, peut-être, les choses étaient déjà assez évoluées. Mais chez les Juifs, il y avait vraiment la soumission de la femme à son mari. Donc, on l'a dit, cette soumission, c'est pas être écrasé par le mari qui impose sa loi, etc., parce que souvent, on l'entend comme ça. La soumission vient uniquement de la femme. Et c'est un acte volontaire de la dame vis-à-vis de son mari. Elle veut le faire, on ne lui impose pas. C'est elle qui le fait délibérément. Parce qu'elle va le faire, parce qu'elle sait que, d'abord, la Bible lui dit, et que c'est sa responsabilité devant Dieu. Hein, elle ne le fait pas seulement pour son mari, mais elle le fait aussi parce que Dieu a confié cette responsabilité à la femme vis-à-vis de son mari. Et puis, elle trouvera tout l'exemple dans Christ, hein, qui s'est soumis parfaitement au Père. Je crois que personne ne s'est aussi soumis à Dieu que Jésus-Christ. Et l'exemple, il est là, hein, pour tout le monde, on l'a dit, mais là, spécifiquement pour la dame. Hein. C'est un modèle. Pour nous, pour chacun d'entre nous. Et Pierre continue, parce que ce n'est pas juste se soumettre pour se soumettre, il y a un objectif dans cette soumission. Et ça, si on ne l'a pas compris, forcément, on n'a pas envie de se soumettre. C'est clair. Enfin, l'objectif, il dit, c'est gagner leur mari à la fois. Alors certainement que dans le contexte, c'était des dames qui avaient un époux qui n'était pas croyant. Puisqu'il dit, il va peut-être, par leur soumission, évangéliser quelque part leur mari. Et qui sait? Parce qu'elles se sont soumises, parce qu'elles ont une bonne conduite, qui sait si ces maris ne vont pas se convertir. Il y a un but intéressant, quand même, quelque part, quand on y réfléchit. C'est une évangélisation muette et visuelle. Ce n'est pas du blablabla. C'est une conduite. Il n'y a pas de verbe là-dedans, mais il y a simplement l'exemple. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément que pour les dames, hein, mais quand on est un exemple sur notre lieu de travail, où qu'on soit, bah, les gens vous regardent des fois un peu bizarre déjà, hein, parce que, tiens, vous trichez pas, vous mentez pas, vous êtes des extraterrestres, hein, on dit souvent, ouais, hélas. Mais ça a un impact. Et j'imagine que dans le foyer, si cette femme agissait comme le Seigneur lui demandait, plutôt que de râler tout le temps parce que son mari n'est pas chrétien, ou de lui faire le reproche, bah, peut-être que des gens étaient tout simplement gagnés à Christ. Hein. Des fois, on croit qu'évangéliser, c'est distribuer que des flyers, tchatché. Non, des fois, c'est juste bien se conduire. Et ça a un impact parfois. Et il parle d'une conduite chaste, hein, dans le grec, c'est une conduite qui est pure, digne de révérence, vénérable, qui est sacrée, hein, on imagine bien ce que c'est. Et puis continue par une conduite réservée. Conduite, en fait, en grec, c'est réservé, c'est phobos, la phobie, la peur, en fait. Hein. Non pas la peur du mari, mais le respect du mari. Comme nous, on doit avoir cette crainte de Dieu, c'est la même chose, hein. Elle a la crainte de son mari, parce qu'elle le respecte, tout simplement. Il parle de cette parure intérieure, hein. Il demande de soigner cette parure extérieure et intérieure en même temps. Bon, si vous connaissez un peu le grec, le mot parure n'existe pas dans l'original, mais l'idée c'est plutôt de, voilà, regardez ce qui est dehors de vous, hein, ce qui est autour de vous, ce que vous faites paraître en fait autour de vous, c'est-à-dire tout ce que les autres voient sur vous. Il faut savoir qu'à l'époque, quand on parle des parures, c'est pas hein, être coquette, mais à l'époque, elles avaient des coiffures, mais qui montaient à des hauteurs. Les femmes montraient aussi leur richesse. Alors, c'était clinquant, c'était plein de bijoux. Elles rentraient comme ça dans l'église, forcément, hein, ça perturbe quelque part. Donc, c'est pas être une femme un peu coquette avec son petit maquillage. On est bien loin de ça dans le contexte. C'est vraiment des gens qui montraient bien souvent leur richesse. Et souvent, il y avait des femmes qui étaient pauvres aussi dans l'église. Forcément, c'est pas très agréable pour ça. Et en fait, tout cet extérieur-là qu'elle montrait, eh ben, tout le monde le voyait, et le mari aussi. Et c'était peut-être pas toujours agréable pour lui. Il y a un témoignage visuel dans notre façon de nous vêtir. C'est valable pour les hommes aussi, hein, même si on est un peu moins coquet. Bien qu'aujourd'hui, les hommes deviennent de plus en plus coquets. Ça m'inquiète. Mais bon. Elles avaient un témoignage visuel autour d'elles. Hein, Pierre demande tout simplement d'avoir une parure efficace pour l'évangélisation. Hein, ce n'est pas avec les belles coiffures, avec l'argent qui brille là, que vous allez convaincre des gens à venir à Christ. Hein. Il parle plutôt de cette parure intérieure qui devrait finalement se refléter vers l'extérieur. On voit qui on est en nous regardant tout simplement, et on sait ce qu'il y a au fond de notre cœur. Hein. Si vous avez des grandes coiffures, que vous montrez votre argent et tout ça, bah, on imagine le cœur. Hein. C'est un peu d'orgueil, parce que je veux montrer tout simplement qui je suis riche, regardez-moi, gna 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 gna. Souvent, on s'habille pour qu'on nous regarde, hélas. Ce n'est pas le but, normalement. Le Seigneur veut qu'on s'occupe plutôt de la parure intérieure. Forcément, c'est un impact sur la parure extérieure. Hein. Et cette parure intérieure, il parle d'un caractère pur, incorruptible, doux et paisible. Et quand quelqu'un est comme ça, c'est un témoignage en fait pour l'extérieur. L'apparence, ça touche les yeux, ça touche les sens, ça touche la chair. Hein. Ça a un impact sur notre chair. Par contre, la conduite, ça a un impact sur notre âme et sur notre cœur. L'un est inutile, par contre, la conduite est utile. Alors, ça ne veut pas dire que les gens vont se convertir forcément, mais ça a un impact au moins pour la personne qui vous regarde et dans l'âme de cette personne-là. Est-ce que vraiment je parle de Christ si je présente toutes mes richesses? Je ne pense pas. Par contre, si j'ai de l'humilité, là, je crois que je présente vraiment Christ comme il est. Et puis, Pierre dit que c'est d'un grand prix, en fait, aux yeux de Dieu de s'occuper de cette parure intérieure. Ça a un grand prix. Le terme grec dit c'est même somptueux, en fait. Agir de cette manière-là, c'est être considéré par Dieu comme somptueux ou somptueuse, puisque là, on s'adresse aux dames. Et Dieu se plaît de voir quelqu'un qui travaille cette attitude intérieure plutôt que cette attitude extérieure. On n'est pas en train de dire qu'il faut s'habiller mal, moche ou vieillot. C'est pas ce qu'on est en train de dire dans ce texte. On dit simplement que, attention, ça a un impact sur les autres. Et là, je laisse les dames s'occuper de ça. C'est pas, moi, je suis pas spécialiste, hein. Mais ça a un impact. Et puis il prend l'exemple de ces femmes bibliques hein, qui étaient soumises et qui certainement avaient un vestimentaire correct. Hein. Il parle de ces femmes et de leurs caractéristiques. Elles espéraient en Dieu. Là, c'est dans le sens religieux. Elles attendaient le salut avec joie et avec confiance, hein, de la même manière que le mari. Et elles se soumettaient volontairement à leur mari parce qu'elles prenaient à cœur cette responsabilité qu'elles avaient vis-à-vis du mari. C'est pas un homme qui est tout puissant sur sa femme qui l'oblige à tout faire, c'est la femme qui va vers le mari qui dit je veux être comme cela pour toi. Et quand les deux font ça, parce qu'on va voir après la responsabilité de l'homme, en fait tout marche, c'est équilibré. Mais si l'un veut être autoritaire sur l'autre, eh bien, généralement c'est le gros bazar. J'en ai vu des cas en cure d'âme où c'est justement des problèmes comme cela. Mais Dieu, en fait, dans ce que Dieu nous demande, c'est toujours de l'équilibre. Et c'est ça qui est formidable. Mais nous, avec notre péché, on a tendance à aller vers l'un ou vers l'autre. Puis il prend l'exemple de Sarah, hein, qui obéissait à Abraham. Elle ne le faisait pas d'une façon servile, parce que vous connaissez un peu Sarah. Hein, Sarah faisait un peu ce qu'elle avait envie des fois. Hein. Elle avait cherché une maîtresse, une servitrice. Servante, voilà, servitrice, n'importe quoi. Mais on connaît un peu son caractère. C'est quand même pas quelqu'un qui se laissait marcher sur les pieds. Hein. Et pourtant, la Bible dit qu'elle était obéissante, soumise à Abraham. Donc vous voyez bien que la soumission, ce n'est pas être écrasé bêtement. On a le droit d'être qui on est, mais elle se soumettait à son mari, et l'appelait même Seigneur. J'ai demandé un jour ça à ma femme, elle n'a pas voulu, je ne sais pas pourquoi. Je rigole, c'est pas vrai. Mais il y a l'idée derrière, évidemment, de ce respect. Respect pour le mari. Et les chrétiennes d'aujourd'hui, Pierre dit, alors là, il parle il y a 2000 ans, mais c'est toujours valable aujourd'hui, sont la descendance, quelque part, de ces saintes femmes. Hein. Il dit, vous êtes les filles de ces femmes à l'époque qui avaient un bon témoignage, les filles qui sont la descendance du bon caractère, de la bonne conduite qu'avaient ces dames à ce moment-là. Hein. Et le Seigneur nous demande, vous demande, mesdames, d'agir de cette façon, en faisant ce qui est bien. Alors faire ce qui est bien, c'est pratiquer le bien, c'est tout simplement faire ce que Dieu nous demande, tout simplement dans la Bible. Hein. Sans vous laisser troubler par aucune crainte, alors peut-être que dans le contexte, on ne sait pas exactement pourquoi Pierre a dit ça, mais peut-être que les femmes étaient écrasées dans certains domaines, et ben, elles devaient malgré tout essayer d'avancer et d'être soumises à leur mari pour avoir un bon témoignage vis-à-vis de ces maris difficiles. Ah, les maris sont difficiles parfois, hein, n'est-ce pas? Elles n'osent pas le dire. Hein. Donc, dans cette première partie, Pierre appelle justement à avoir une bonne conduite dans le mariage au niveau des femmes mariées. Et on voit surtout que ça a un objectif où ça conditionne en fait l'évangélisation et ça a un impact en fait sur la société qui les entourait. On ne sait pas s'il y a eu des gens qui se sont convertis ou des maris qui ont accepté Christ, mais j'en connais, hein, qui ont persévéré et un jour le Seigneur a ouvert le cœur de cet homme et à cause du témoignage de cette femme, ben, il s'est converti. Ça vaut le coup quand même, quelque part, quand on y réfléchit, non? Alors souvent, beaucoup de femmes, je sais, s'impatientent de voir leur époux se convertir, ou l'inverse, hein, ça marche aussi. Il ne faut pas s'impatienter, hein. Il ne faut pas forcer non plus les choses. Dieu a son plan pour chacun d'entre nous. Hein. Mes parents voulaient que je me convertisse très vite, et ça n'a pas marché comme ça. Le Seigneur a pris son temps, et c'est pareil. Mais il faut être patient, et prier, et puis le témoignage que l'on peut avoir auprès de lui est très, très important. Puis Pierre s'intéresse aux hommes, alors il fait un peu plus courtement, c'est peut-être parce que nous, on n'a pas besoin de plus, c'est ça? Je vais les énerver les dames ce matin, hein. Non, je ne pense pas, parce qu'on va voir que la responsabilité est encore pire, si on, vraiment on approfondit. Hein. Il dit « Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme ». Montrez de la sagesse à votre tour. Hein. Alors il dit quelque chose aux femmes, maintenant c'est à votre tour les hommes. Parce que souvent on dit, ah mais regarde, regarde, hein, il parle là. Mais on oublie qu'il y a aussi des choses pour nous les maris. Hein. Si moi j'attends quelque chose de ma femme a le droit d'attendre quelque chose du mari, de moi. Ça marche dans les deux sens. Hein. C'est pas l'un qui impose sur l'autre. Et d'y avoir de la sagesse dans les rapports, alors le mot il est un peu difficile à comprendre, hein, mais ça serait demeurer dans la cohabitation qu'il a en fait avec sa femme, c'est tout simplement la vie conjugale. Hein. Avoir de la sagesse dans cette vie conjugale. Et cette sagesse, est-ce qu'on l'a? Des fois c'est difficile en tant qu'homme d'avoir vraiment de la sagesse. Et la Bible nous dit dans Jacques que la sagesse vient de qui? De Dieu. Et on peut lui demander. Si je vois que j'agis mal peut-être dans mon couple, où je ne sais pas comment faire, eh ben, je peux demander à Dieu de la sagesse. Alors quand on demande, dit Jacques aussi, c'est avec foi, en croyant que Dieu peut nous donner cette sagesse-là. C'est dur d'être sage des fois, hein. Pas toujours simple, hein, parce que des fois on est fatigué, on en a marre, on est énervé, le travail ça ne marche pas, et hein, on est voilà, sous tension des fois. Mais le Seigneur veut nous donner la patience, la sagesse pour agir correctement en tant que mari. Et la Bible nous dit que le mari doit être un exemple pour son épouse. Et surtout par rapport à sa relation qu'il a avec Dieu. Il y a beaucoup d'autres passages hein, qui nous rappellent que nous avons cette responsabilité en tant que chef de notre famille. Et quand on est chef de cette famille, quand on veut dire que je suis le chef de la famille, il faut que je démontre aussi que j'ai une relation avec Dieu, une vraie relation hein, avec Dieu. Comment je peux donner un exemple ensuite dans ma famille? C'est pas possible. Souvent, c'est les dames qui montrent plutôt l'exemple. Hélas, on le constate de plus en plus. Je me souviens sur Reims, hein, j'avais une réunion de prière, une réunion d'études bibliques, mais il n'y avait que les dames souvent. Je croyais faire une réunion de dames des fois, hein, mais bon. Les maris ont un rôle important dans ce domaine-là. Et il faut vraiment y songer. Et ma relation avec Dieu va évidemment conduire la famille, va conduire mes enfants, etc. Qu'est-ce qu'ils voient comme exemple de leur papa, du chef de la famille? Donc on a un rôle très important en tant que mari. Et on doit avoir cette sagesse parce qu'il dit que la femme est un sexe plus faible. Alors le mot sexe a beaucoup de termes, hein. C'est pas eros en grec, mais plutôt il parle de bien et d'un vase en fait. Ils disent tout simplement que la femme est un vase, et un vase c'est quelque chose qui est fragile. Il était très poète hein, à ce moment-là, Pierre. Et un vase plus faible, qui est sans force, parfois impuissant, je ne veux pas dire qu'elles sont faibles, les dames, hein. Je sais que des fois elles sont très fortes même, mais quand même par rapport à l'homme, elles sont comme un vase fragile. Et c'est comme ça que Dieu demande au mari de regarder la femme. C'est un vase fragile. Et tout vase mérite en fait de belles fleurs, n'est-ce pas? Vous aimez les belles fleurs, non? Les dames? Non? Il n'y a que ma femme alors. Bon, je suis mal tombé alors peut-être. Mais tout vase mérite de belles fleurs et évidemment ma femme mérite les fleurs de ma sagesse, normalement. On va jouer les poètes jusqu'au bout, hein. Mais voilà, c'est ce que Pierre demande, hein, que je puisse mettre à déposer là les belles fleurs de ma sagesse, de mon comportement vis-à-vis de ma femme. Je pense pas qu'on sera parfait, mais on peut apprendre, on peut essayer d'y tendre. Et avec le temps, hein, je vois, ça fait plus de 20 ans que je suis marié, je vois qu'on apprend beaucoup de choses. Et merci Seigneur parce qu'il nous transforme au fur et à mesure. Mais chaque étape est aussi différente puisqu'on change, etc. C'est compliqué des fois la vie, hein, quand on y pense. Mais bon, le Seigneur nous aide dans ce domaine-là. Elle demande aussi d'honorer nos femmes. Le terme veut dire céder, doter, honorer, partager, accorder. En fait, c'est mettre notre femme en valeur. À l'époque, certainement qu'elles n'étaient pas mises en valeur. Aujourd'hui, elles sont trop en valeur. En fait, voilà, il y a toujours un déséquilibre chez l'être humain, mais avec Dieu, lui, ce qu'il demande, c'est tout simplement de créer l'équilibre. Une petite anecdote marrante qui parle de la côte d'Adam, et une histoire qui n'est pas vraie, mais bon. L'empereur dit à Rabbi Gamaliel, hein, votre Dieu est un voleur puisqu'il a écrit qu'il a endormi Adam pour lui prendre une de ses côtes. La fille du rabbin dit alors à son père, laisse-moi faire, je vais lui répondre. Puis elle s'adressa à l'empereur en ces termes, veuillez mettre un officier de police à ma disposition. Pour quel motif? Je voudrais porter plainte. Des voleurs ont pénétré chez nous pendant la nuit. Ils ont dérobé un vase d'argent, hein, mais ils ont laissé en échange un vase d'or. Que n'ai-je chaque nuit, chaque jour, pardon, la visite d'un pareil larron? S'écria l'empereur. Hein. Ils ont laissé quelque chose de meilleur, en fait. Et la femme de répondre, n'est-il pas donc admirable, reprit la fille du rabbin, pour le premier homme de s'être vu enlever une simple côte et d'avoir reçu une femme à la place? Il dit que vous avez quelque chose de meilleur qu'une simple côte, tout simplement. Est-ce que c'est vrai, messieurs? Ouais, vous n'êtes pas très loquace, hein? Mais c'est comme ça qu'on devrait le voir, en fait. La chance, on a perdu une côte peut-être, mais on a gagné une femme, une aide, hein, quelqu'un qui est là pour nous aider dans notre vie. Et je crois que c'est une grâce que le Seigneur fait à celui qui trouve une femme, il le dit lui-même. Après, il fait grâce aussi pour ceux qui restent célibataires, évidemment. Mais en fait, il faudrait d'abord la considérer, nous, en tant qu'hommes, comme un cadeau. C'est vrai que ce n'est pas toujours un cadeau, mais le Seigneur nous demande que, regardez, c'est un cadeau en fait. Non, je rigole, je suis méchant quand même. Mais si on arrive à la voir de cette manière-là, les choses vont changer peut-être dans mes rapports avec ma femme. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 5, versets 22 à 29, qu'il faut l'honorer jusqu'à la mort. C'est pour ça que j'ai dit, il y a la responsabilité de la femme, mais il y a la responsabilité de l'homme aussi. Comme Christ est mort pour l'Église, il demandait à l'homme d'aller jusque-là. Est-ce qu'on est prêt à mourir pour nos dames, à les protéger jusqu'au bout, parce qu'elles le méritent et parce que le Seigneur nous demande cela, tout simplement? Quelle responsabilité on a en tant qu'homme? C'est pas évident. Et il dit, comme ces dames, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Alors peut-être qu'il réagit là au machisme à l'époque des Grecs, hein, peut-être que la femme n'était pas grand-chose dans la société, mais Paul justement dit non. Lui, il était révolutionnaire à ce moment-là, en fait. Il dit non, ben, les femmes sont sur le même plan spirituellement, hein, elles sont sauvées de la même manière. Et puis souvenons-nous que dans le ciel, il n'y a pas de sexe, hein, il n'y a pas d'homme et de femme. On sera tous transformés par le Seigneur, mais il y a une égalité spirituelle, et devant la croix, et dans l'avenir. Donc l'un n'est pas au-dessus de l'autre, et tous les deux hériteront du salut pour l'éternité. Et puis il rajoute quelque chose que peut-être on ne réfléchit pas assez, c'est que notre comportement est lié aussi à notre prière et à son exaucement. Puisqu'il rappelle aux hommes d'abord qu'ils sont des hommes de prière, normalement, qui prient pour leur famille, qu'ils poussent la famille à prier, ils prient pour leur femme, prient pour tous les sujets qui peuvent exister, mais il les met eux en avant là-dedans, dans la famille. Eux sont des hommes de prière et donc des exemples derrière, normalement. Mais il dit aussi que si ils se conduisent mal dans le couple, s'ils ont un mauvais comportement, eh ben ça peut faire obstacle aux prières. Et ça, on n'y pense pas souvent. Hein, on prie, on se demande pourquoi Dieu n'exauce peut-être pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas voir des fois mon comportement avec ma femme? Je ne sais pas, ce n'est pas systématique. Mais il y a quelque chose de conditionnel là quand même. Je suis un homme de prière en tant que mari, en tant que chef de ma famille, et mon comportement, Dieu le regarde. Il en tient compte. Il en tient compte. Et parfois, ben, je peux prier, ben, Dieu va boucher ses oreilles, et dire, eh oh, t'as vu comment tu te comportes avec ton épouse, là? Tu la maltraites, tu lui fais du mal, tu ne l'honores pas. Ben, moi, je n'écoute pas ce que tu es en train de dire. C'est pas rien, ce qu'il dit là, quand même. Ça fait réfléchir. Non seulement à notre responsabilité dans ce sujet qu'est la prière, mais aussi à notre manière de prier et qui est liée tout simplement à notre comportement. Alors, en tant qu'homme, on a une sacrée responsabilité. C'est pas simple d'être un homme finalement, hein, n'est-ce pas les dames, hein? Vous voyez combien c'est dur d'être un homme. Mais comme la femme, le mari a des responsabilités, et dans les deux cas, selon la conduite, il y a des conséquences, tout simplement. Ça, c'est, on le sait, si je me conduis mal en tant que femme, si je me conduis mal en tant que mari, forcément il y a des conséquences négatives. Par contre, si j'essaye d'obéir au Seigneur, faire de mon mieux, et il m'aidera aussi, eh bien, ça peut avoir des répercussions positives, tout simplement, dans la famille et même autour de nous. Donc, c'est peut-être pas si difficile de vivre ces choses-là, je pense. C'est pas impossible, en tout cas. Et si le Seigneur me le demande, c'est que c'est faisable. Et puis Pierre s'intéresse maintenant à la conduite de tous les chrétiens au verset 8 jusqu'au verset 12. Hein. Et souvenons-nous toujours qu'il nous demande, enfin il demande à ces gens-là de bien se conduire alors qu'ils sont persécutés, jetés au lion, tués de manière vraiment atroce à ce moment-là. Ayez une bonne conduite, quoi qu'il arrive. Une conduite d'unité, par exemple. Il dit avoir une conduite ou avoir des mêmes pensées. C'est l'unité d'esprit. C'est pas commencer à se disputer en plein milieu de la persécution. Je sais pas si vous connaissez un peu la chute de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Il y a les Romains qui sont venus attaquer, mais il y avait quatre groupes, si je me souviens bien, quatre groupes juifs. Au lieu de combattre l'ennemi, ils se combattaient les uns contre les autres, alors que l'ennemi était à la porte. Et finalement, ils ont tout perdu. Et bien souvent, l'Église préfère se disputer, même quand on est dans la persécution, plutôt que vivre une unité. Apprendre à se demander pardon, apprendre à vraiment prendre le temps de discuter avec l'autre, mais dans la joie et dans l'amour, plutôt que se diviser, alors que l'ennemi est là. Alors lui, le diable, lui, il est content qu'on peut se diviser. On n'est pas toujours d'accord, hein. On est tous différents, mais on peut discuter, on peut prendre le temps pour arriver à cette unité. Et quand on n'est pas d'accord, ben on peut prendre le temps de prier, suffisamment de temps, pour que le Seigneur nous aide à bien nous comprendre et à arriver à cette unité d'esprit. Il dit d'avoir les mêmes sentiments. En fait, ça veut dire souffrir ou ressentir comme l'autre et avec l'autre. On pense souvent à nos émotions, à ce que nous souffrons, et on ne regarde pas ce que l'autre souffre. Et en fait, il faudrait qu'on souffre ensemble, tout simplement. Qu'on prenne garde à mon frère dans la situation où il est, et qu'ensemble, on avance tout simplement l'un avec l'autre. On est tous différents, on l'a dit, on est tous peut-être aussi à un autre niveau de notre vie spirituelle, etc. Et c'est ce qui crée des fois les petites tensions, mais est-ce que je suis prêt à souffrir des fois, d'accepter des fois les petites injustices de l'autre, pour avancer tout simplement dans cette unité d'esprit, et avancer avec l'autre, parce que le Seigneur me le demande. Il faut faire des petits sacrifices des fois. Hein. C'est valable dans le couple, mais c'est valable aussi dans la relation entre chrétiens. Avoir une conduite pleine d'amour fraternel. Plein d'amour fraternel pour les frères et les sœurs. Et quelqu'un a écrivé par rapport à l'Église persécutée et s'étonnait vis-à-vis des chrétiens. Et il disait « Le monde avant le Christ était un monde sans amour ». Ce jugement d'un historien est peut-être excessif, hein, parce que les gens s'aimaient quand même. Mais il cherche du moins à expliquer l'étonnante séduction du christianisme sur les masses et sur les élites. L'évangile de la charité venait expliquer et réaliser la fraternité humaine inscrite au plus secret de l'être humain et que nulle philosophie n'avait à ce point fait passer dans les actes quotidiens. L'Église veut fondamentalement être une fraternité, comme le remarque Ignace d'Antioche, hein, pour ceux qui connaissent. Ce qui frappe le païen, c'est de rencontrer des hommes qui s'aiment, qui vivent l'unité, l'entraide, le partage, de trouver une société qui établit une répartition des charges, des biens, entre les riches et les pauvres, dans une fraternité authentique. L'empereur Julien doit reconnaître 2 siècles plus tard que le secret du christianisme tient à son humanité envers les étrangers et sa prévoyance pour l'enterrement des morts, bon, c'était un truc important à l'époque, bref, à la qualité tout simplement de leur amour les uns pour les autres. Ça avait un impact à ce moment-là, et les gens s'étonnaient qu'on puisse s'aimer à ce point-là. Vous voyez que l'amour, c'est important, c'est profond même. Il dit donc d'avoir cette conduite plein d'amour fraternel, plein de compassion, hein, savoir pardonner, savoir être miséricordieux. Le mot, en fait, grec, ça parle d'entrailles. Hein, quand il parle d'être miséricordieux, c'est avoir des entrailles pour l'autre, tout simplement. On comprend un peu mieux. C'est beaucoup de sentiments, mais de bons sentiments vis-à-vis de l'autre. Plein d'humilité, être amical, aimable, éloigner l'orgueil, tout simplement, qui souvent fait du mal dans nos relations les uns avec les autres. Il parle de cette conduite dans le monde, hein, on en a déjà parlé, mais le répète parce que peut-être à l'époque, les chrétiens persécutés voulaient se venger. C'est normal, hein, ils venaient dans les maisons, ils tuaient les enfants, tuaient les femmes, tuaient tout le monde. Je pense qu'on ne reste pas insensible dans ces situations-là, et forcément, il y avait des désirs qui montaient dans le cœur. Hein. Enfin, j'imagine. Mais Pierre demande de ne pas se venger, de ne pas faire le mal, ou de ne pas être mauvais, de ne pas avoir des injures, des railleries, des outrages vis-à-vis de ses ennemis. La Bible dit « À moi la vengeance », dit le Seigneur. C'est Dieu qui s'occupera de tout cela. Et vaut mieux le laisser faire, parce que notre vengeance à nous, elle est souvent entachée par le péché. On règle les comptes pour les régler, et on les règle très mal. La vengeance, le Seigneur ne nous demande pas. Hein. Et ce monde ne vit que par la vengeance. Hein. Moi, je m'étonne des fois quand je vois les films, quand vous vous arrêtez des fois, mais c'est que des films où on se venge, on se venge, on se venge, on va tuer tout le monde parce qu'on m'a fait du mal. C'est pas ce que le Seigneur nous demande, loin de là. Au contraire, il dit, le chrétien est appelé à bénir, à faire du bien plutôt que du mal à nos ennemis. C'est facile? Non, c'est pas facile. C'est pas facile, mais pourtant le Seigneur nous demande, et on a un exemple, hein, Jésus-Christ. Le Christ a été agressé, on ne peut pas faire pire, et pourtant il est resté à aimer, à pardonner, à faire du bien tout autour de lui. Il l'a fait jusqu'au bout. Alors vous allez dire, c'est Jésus-Christ, c'est vrai, mais s'il nous le demande, c'est qu'il va aussi nous donner la force. Beaucoup de chrétiens ont été martyrs à ce moment-là et en sont allés jusqu'au bout, parce que le Seigneur certainement donne une force qu'il ne nous donne pas aujourd'hui, qu'on n'a pas besoin tout simplement, mais ils sont allés jusqu'au bout pour leur foi. Et heureusement qu'eux sont allés jusqu'au bout, parce qu'ils ont transmis l'évangile jusqu'à nous aujourd'hui. Vous imaginez s'ils avaient tous lâché? Ils ne seraient pas là. Ils ne connaîtraient peut-être pas la grâce de Dieu. Les gens sont sacrifiés, et là je parle au cours de toute l'histoire, accepter d'aller jusqu'au bout, de bénir plutôt que de maudire, parce que ce témoignage devait perdurer jusqu'à nous aujourd'hui. Et Dieu va bénir une telle conduite. Hein. Quand vous faites le bien au lieu du mal, il dit qu'on va hériter la bénédiction. Alors, c'est peut-être pas sur le moment, mais on sait ce qu'on va hériter plus tard. Et quelque part, c'est une récompense de la part de Dieu quand nous agissons bien avec nos ennemis. Et puis, il y a une bénédiction derrière cette conduite. Hein. Il dit, qui veut être heureux, avoir des jours heureux? Qui veut être heureux, là? Il y en a une, les autres vont vous être malheureuses, c'est ça? Avoir des jours heureux, des vieux jours heureux, ouais, il y a quelqu'un qui en a besoin. Hein. Et bien il dit, ben, préservez votre langue du mal. Et là on pourrait voir beaucoup de choses, c'est qu'un exemple. Hein. Se préserver du mal, des paroles trompeuses, des injures, des calomnies, enfin tout ce que l'homme sait faire facilement dans les difficultés. Hein. Si je veux être heureux, ben, j'arrête de dire du mal. Forcément quand j'arrête de dire du mal des autres, je suis moins travaillé dans mon cœur, et forcément, ça va me faire du bien. Quand je ne calomnie pas, ben je ne risque pas d'être agressé par celui que je suis en train d'agresser. En fait, quand on fait le bien, on se fait du bien soi-même d'abord. Et forcément, ça a un impact sur les autres. Il dit aussi de s'éloigner du mal et de faire le bien, toujours en imitation de Christ. Christ a fait le bien jusqu'au bout, et parce qu'il l'a fait jusqu'au bout, il y a cette victoire de la croix. S'il ne l'avait pas fait, on ne serait pas sauvé. Vous imaginez? Il a fait le bien jusqu'au bout, et ça a un impact pour énorme, en fait, dans ce monde, pour notre salut, notre grâce. Et peut-être que nous, en faisant le bien jusqu'au bout, eh bien, peut-être ça aura aussi un impact pour certaines personnes au bout. Ce n'est pas vain de bien se comporter, ce n'est pas vain d'aller jusqu'au bout. Hein. Puis il dit « rechercher la paix ». Et le mot en grec, c'est pas juste rechercher une paix ou chercher la paix, c'est faire l'effort de rechercher cette paix. C'est un vrai travail en fait. Hein. C'est pas facile de trouver la paix avec les autres, surtout quand on est persécuté, quand on est calomnié. Mais il y a un effort à faire. C'est pas simple. Ça, il faut bien l'admettre, mais il nous demande de faire l'effort pour être en paix avec tout le monde. Et surtout avec soi-même, parce que si moi je me laisse prendre par le péché, c'est moi qui aurai du problème avec moi-même déjà, puisque je culpabiliserai, etc. Dieu voit les injustes, il le dit à la fin des versets qu'on a lus, hein, mais il voit aussi les justes, et Dieu voit ces justes qui souffrent, il est attentif à leurs prières, et parce qu'il est capable d'agir, Dieu va aussi pouvoir les protéger, ou non, parfois, parce que c'est son choix, mais Dieu est présent, accompagne ces chrétiens qui étaient là dans la persécution. Par contre, il dit aussi, Dieu est contre ceux qui font le mal, et il voit tout le monde, même les chrétiens, et Dieu n'est pas injuste. Si le chrétien fait du mal, s'il commence à tuer tous les opposants, etc., Dieu le voit aussi et Dieu reste juste. C'est pas parce qu'il est chrétien. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va pas aller jusqu'au bout, des fois. Ça arrive, il faut pas croire. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, hélas. Mais Dieu reste juste avec les injustes et avec les justes. Heureusement, d'ailleurs. Donc, ça nous pousse à bien réfléchir à notre comportement. On n'est pas persécuté aujourd'hui, mais on peut avoir des différends avec les uns et les autres à l'extérieur parce qu'on est chrétien, des fois. Mais Dieu me voit aussi dans ma manière d'agir, si je suis juste avec ces personnes-là ou injuste parfois avec eux. Donc la bonne conduite du chrétien produit la paix, normalement, autour de nous. Alors, ça dépend, tant que ça dépend de nous, après si les autres ont envie de faire la guerre contre nous, ça c'est leur problème. Mais ça produit la paix en moi d'abord, mais aussi autour de moi. Et quand moi je suis en paix, en fait, je suis joyeux. Non ? Quand je suis en paix, je suis heureux. Tout simplement. Et c'est ce que veut le Seigneur dans notre vie. S'il pousse à avoir une bonne conduite, s'il nous demande d'avoir une bonne conduite, c'est parce qu'il veut qu'on soit bien, tout simplement. D'abord pour moi-même, dans mon cœur, mais après dans le foyer, parce que chacun a sa responsabilité, veut la paix. Forcément, le foyer peut être que heureux, puisqu'il est équilibré. Et puis dans l'Église ensuite, si chacun cherche la paix, se soumet les uns aux autres, ne cherche pas l'orgueil, forcément, il peut y avoir que la paix et de la joie. Et une église qui est heureuse, ah, moi j'aime ça en tant que pasteur. C'est pas toujours le cas, hélas, mais c'est beau quand l'église s'aime et est en paix, tout simplement. Pour terminer, on voit là dans Pierre que Dieu responsabilise l'homme, la femme, les chrétiens dans leur façon de se conduire au quotidien. On part pas au travail le lundi matin, on va pas dans notre famille n'importe comment. Dieu nous voit et attend quelque chose de chacun d'entre nous en tant que chrétien. Alors je sais qu'on va apprendre à mieux nous conduire, hein. c'est pas inné. Hein. J'aimerais être le meilleur mari du monde pour ma femme, mais ça ne marche pas. Vouloir c'est une chose, mais on doit apprendre avec le Seigneur à grandir dans la sanctification, dans la transformation qu'il veut faire avec moi. Et si je me laisse faire, forcément ça aura un impact positif, et dans le foyer, et dans l'Église. Il faut honorer ses responsabilités, parce qu'on l'a vu, ma façon de me conduire va avoir un impact sur une espèce de rayonnement autour de moi, que ce soit le conjoint non converti, que ce soit peut-être les hommes perdus. J'ai un impact visuel ou spirituel peut-être, mais j'ai un impact en fait sur ceux qui m'entourent. Et ma façon de me comporter va produire peut-être des fruits tout autour de moi. On veut évangéliser ? Ben, c'est comme ça aussi. C'est pas que les traités, c'est pas que monter sur une chaire, évangéliser, c'est aussi la conduite que l'on a vis-à-vis des prochains, du prochain. Et une bonne conduite a des effets, on l'a dit, hein. Ça peut produire la conversion, ça peut être l'exaucement aussi des prières, pour parler des hommes. Maintenant, si, hein, la Bible dit aussi que si j'ai péché, là c'est homme ou femme, et que je me demande pas pardon au Seigneur, le Seigneur n'exauce pas non plus. Hein. Donc c'est valable aussi pour les dames, mais bon. Mais ça a un impact sur ma prière, et forcément derrière, ça a un impact sur ma paix et ma joie. Le Seigneur nous aide à nous conduire comme Christ s'est conduit parfaitement et jusqu'au bout. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité et qui parfois est pas simple à accepter peut-être, et tout particulièrement dans cette conduite et là dans le contexte vis-à-vis de la persécution, mais Tu pousses à demander aux chrétiens d'être parfaits, d'avoir un bon comportement, et Seigneur, évidemment, en imitation du tien. Et je te demande, Seigneur, de nous aider d'abord dans nos foyers respectifs à trouver nos places, celles que toi, tu as décidées, qui finalement, par équilibre, sont les bonnes places et apportent la joie et la paix dans les familles, Seigneur. Tu vois moi en tant qu'homme, ou en tant que femme, et tu vois ce que j'ai à changer, à améliorer, que tu nous aides tout simplement dans ces domaines. Seigneur, je te prie aussi pour nos relations dans l'Église, qu'on apprenne à s'aimer. Pour s'aimer, il faut se connaître, Seigneur, et il faut prendre le temps de parler avec les autres, Apprenons à aller vers les autres, Seigneur, et justement à nous aimer et à bien nous conduire aussi avec mon prochain dans l'Église, tout simplement pour vivre en paix et dans la joie. Seigneur, merci parce que à vue d'homme, tout cela est impossible, mais par ta grâce, Seigneur, et par toutes les bénédictions et par toute la sagesse que tu vas nous donner, tu vas nous aider aussi à vivre de cette manière-là. Nous prions pour que nous devenions des témoins autour de nous, des lumières, Seigneur, des flambeaux, pour que d'autres puissent tout simplement être touchés par ta grâce. Je te prie au nom de Jésus-Christ.